Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, nous sommes, comme vous le savez, nous parcourons l'évangile de Marc gentiment et nous sommes vraiment à la fin de Marc, mais je suis en train d'étirer le chapitre 16 pendant longtemps parce que c'est tellement intéressant, il y a tellement de choses à dire. Donc, nous abordons le thème que nous avons déjà abordé, de la résurrection. Et aujourd'hui, j'ai intitulé mon message un peu particulier, mais vous allez tout comprendre aujourd'hui. Voici le titre, « Les théories absurdes qui prouvent la résurrection ». Les théories absurdes qui prouvent la résurrection. Et pour nous mettre dans le bain, je propose que nous lisions Marc 16, les versets 1 à 8. Marc 16, 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. On va s'arrêter là pour ce matin. Le récit de la résurrection de Jésus, dans Marc 16, marque le point culminant de la vie de Jésus. C'est la pierre angulaire du christianisme. Ni Bouddha, ni Mohammed, ni Abraham n'ont jamais prétendu ressusciter des morts. Jésus, par contre, a affirmé tout le long de son ministère qu'il allait ressusciter des morts. Écoutez, par exemple, Marc 8, 31. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Et Paul affirme dans 1 Corinthiens 15, 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité des morts, votre foi est vaine. » Vous voyez, tout revient à la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est ce que la Bible dit. La résurrection de Jésus et le christianisme tiennent debout et s'écroulent ensemble. Commençons notre étude ce matin en révisant certains des faits que nous avons déjà examinés dans les études précédentes. Vous vous rappelez que Jésus a été arrêté, jugé, flagellé, couronné d'une couronne d'épines et crucifié. Jésus ensuite a été confirmé mort par les Juifs, par la garde romaine, par Joseph d'Arimathée et par Nicodème. Le corps de Jésus ensuite fut préparé selon les coutumes juives de l'époque. Joseph et Nicodème ont préparé le corps de Jésus en l'enveloppant de bandes découpées dans linceul de 100 livres d'épices dans linceul et 100 livres d'épices et de myrrhe d'aloé en forme de pâte gommeuse. Le corps fut ensuite déposé dans un sépulcre neuf taillé d'un roc. Une grande pierre de 2 tonnes fut roulée sur l'ouverture du sépulcre. Une garde romaine composée de 16 soldats fut placée devant le sépulcre. Après vérification du contenu du sépulcre par la garde, un sceau romain fut placé sur le sépulcre. Et puis, 3 jours plus tard, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Matthieu 28, 2 nous dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre. Matthieu 28, 2 nous dit qu'il y a eu un ange qui apparut. Matthieu 28, 2 encore nous dit que la pierre fut roulée par l'ange. Et les évangiles, on l'a vu, nous fait clairement comprendre que cette pierre a été soulevée et déplacée à une certaine distance en haut d'une pente. Le sceau romain fut brisé. Matthieu 28, 4 nous dit que la garde tremblait de peur et devint comme mort. Peut-être à cause du tremblement de terre, peut-être à cause de la résurrection, peut-être parce qu'il y avait un ange aussi. Marc 16, dans la quête qu'on vient de lire, nous dit que des femmes se rendirent au sépulcre. Verset 1, lorsque le sabbat fut passé, donc on apprend que le sabbat fut passé, et l'idée c'est que le sabbat avait en quelque sorte frustré les femmes qui avaient voulu oindre le corps de Jésus avant le sabbat, mais n'ont pas eu le temps de le faire. Donc elles viennent maintenant après le sabbat pour faire ce travail. Le verset 2 nous dit que c'était le premier jour, je lis le verset 1, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus le premier jour de la semaine et se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Alors il faut bien souligner que ces femmes ne s'attendaient pas apparemment à la résurrection. Elles sont venues pour oindre le corps de Jésus. Qui étaient ces femmes? Marie de Magdala. Marc 16, 9 nous dit que Jésus avait chassé 7 démons de cette femme. Il y avait aussi Marie, mère de Jacques, probablement Madame Zébédée, la maman de Jacques et Jean, aussi connue comme Marie, mère de Jacques et de Joseph, selon Matthieu 27, 56. Il y avait Salomé, pas la même Salomé qui a dansé devant Hérode, mais une disciple de Jésus. Et Luc 24, 10 nous dit qu'il y avait encore d'autres femmes qui étaient avec elle. Alors ce qu'on apprend au verset 3, c'est qu'elles discutaient entre elles en allant au sépulcre. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et se demandaient, « Mais qui va rouler cette grosse pierre ?» On avait vu dans le chapitre 15 et le verset 46, « Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. » Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Donc ils avaient déjà vu la taille de la pierre et se disaient, mais comment est-ce qu'on va faire pour rouler cette monstre pierre? Surprise au verset 4. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles arrivent et se disent, mais la pierre n'est plus là devant le sépulcre, mais éloignée de cet endroit. Alors, qu'est-ce que font-elles, verset 5? Elles entrent dans le sépulcre. Regardez, verset 5, elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Elle rentre dans l'antichambre du tombeau. Alors, il faut aller au jardin du tombeau à Jérusalem pour voir, parce que c'est exactement comme ça. On rentre dans une antichambre, et à droite, il y a l'endroit où le tombeau était. Aujourd'hui, il y a une grille. Mais c'est vraiment à droite. Donc, elle rentre dans l'antichambre du tombeau, avec à droite le tombeau lui-même, et regardez ce qui se passe. Verset 5, elles entrèrent dans le sépulcre vers un jeune homme assis à droite. Donc, ça correspond avec le jardin du tombeau. Vêtues d'une robe blanche, elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Donc il y a un ange, en forme d'un jeune homme en robe blanche. C'était le même habit que portaient les prêtres et les personnes de distinction à l'époque. Si vous pensez aux films romains, que vous pouvez imaginer, on voit ces gens avec ces robes, ce genre de robes. Luc 24, 3 à 4 nous dit qu'il y avait en fait deux anges. Matthieu nous dit qu'un de ces anges, ou un autre ange encore, avait roulé la pierre et était assis dessus. Donc en fait, il y avait probablement trois anges. Un sur la pierre, et deux, un à la tête et un au pied de là où était le corps de Jésus. Marc nous relate l'histoire que de l'ange qui parle. C'est tout. Lui, il nous souligne le fait qu'il y en a un qui a parlé, c'est celui dont qu'il mentionne. Et donc l'ange parle, il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, donc le vrai Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Verset 6. Mais allez dire aux disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. L'ange savait exactement pourquoi ces femmes étaient venues. Pour oindre son corps. Mais maintenant, il n'y a plus la pierre et il n'y a plus le corps. Donc il dit clairement, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'a mis. Alors, cet ange, quelque part, invite ces femmes à rentrer dans le sépulcre pour voir quelque chose d'étonnant. Alors, qu'est-ce qu'elles voient ? Ben, elles voient les bandes. Elles voient les bandes qui étaient une preuve incontestable comme quoi une résurrection réelle et physique avait bien eu lieu. Le corps de Jésus n'était pas là, mais les bandes étaient là. On verra ça dans une seconde. Les bandes qui avaient enveloppé le corps de Jésus et selon Josh McDowell, j'en ai parlé la semaine dernière, en forme probablement de coquille vide, puisque la pâte aromatique qui avait été utilisée pour envelopper le corps de Jésus avait séché depuis 3 jours qu'il était dans cette tombe aride et sèche. Mes amis, le corps de Jésus en ressuscitant avait littéralement traversé, passé à travers cette coquille. Et en fait, avait traversé la pierre, l'ange a roulé la pierre, pas pour permettre à Jésus de sortir, mais pour permettre aux femmes de rentrer. Alors qu'est-ce qu'elles font, verset 7 ? Mais allez dire aux disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit, elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Alors là, waouh, elle part, je pense, vraiment au courant, très, très vite. Alors, allez avec moi à Jean 20, Jean chapitre 20, regardez, c'est la suite de l'histoire. Elle ne dit rien à personne avant de le dire aux disciples. Regardez ce qui se passe, on va simplement lire les versets, ils sont auto-explicatifs. Jean 20, à partir du verset 1, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple. De nouveau, l'histoire ne parle que de cette femme, elle, d'accord, mais il y en avait plusieurs. Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, elle leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Donc alors là, maintenant ils se disent, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils courent à leur tour, verset 4, ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Donc Jean était plus jeune, peut-être plus sportif, d'accord, il est plus vite. Donc Jean arrive en premier au sépulcre, s'étant baissé. On avait dit que la porte était à environ 1 mètre de hauteur, et c'est ce qu'on voit aussi au jardin du tombeau. Il se baisse, pour ne pas se cogner, bien sûr, et il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas, donc il rentre, il regarde et il voit ces bandes, probablement cette coquille vide. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre, et il vit les bandes qui étaient à terre. Donc Simon-Pierre, il fait pareil, il se baisse, il rentre, et il voit les bandes. Maintenant, regardez. Et le linge, en plus, qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Donc, on l'avait enveloppé de cette bande, et en plus, un linge à part pour son visage. Donc, et verset 5, Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entrait dans le sépulcre, et il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Quand même étrange, non ? Plié, bien plié, dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, Jean, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, regardez bien, et il vit et il crut. Alors, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il a vu pour le faire croire ? McDowell lui dit, une coquille vide. Voilà le récit de la résurrection, mes amis. Voilà le récit de la résurrection. Rapidement, brossé. Pour que tous les faits, je n'ai pas pris le temps pour mettre tous les faits des 4 évangiles ensemble, mais tout colle. Voici ce qui s'est passé ce fameux premier jour de Pâques. Jésus, la Bible affirme clairement, est ressuscité des morts. Amen. Amen. Alors, parlons un petit peu de cette résurrection. Il faut nous arrêter un instant et réfléchir à ce qu'on est en train de dire ici. Ce que la Bible affirme. La Bible affirme que Jésus est ressuscité des morts. Allez voir, arrêtons une seconde et réfléchissons. Ce n'est pas une petite affaire que de dire cela, que d'affirmer cela. La Bible est en train d'affirmer qu'un homme a été tué publiquement, enterré pendant 3 jours, enveloppé par une bande et 100 livres d'aromates gommeuses qui avaient durci, que ce corps était en décomposition pendant 3 jours et qu'un jour, tac, il est ressuscité. Fou. Alors, si c'est vrai, cela veut dire que la mort, écoutez bien, n'est pas la fin de la vie. Et dans Jean 11, 25 à 26, Jésus affirme une chose époustouflante avant sa mort et sa résurrection. Il a dit ceci à Marie. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Attendez voir, il est en train de dire que si tu crois en Jésus, lorsque tu meurs, ce n'est pas la fin. Tu vivras après. Alors, question, vrai ou faux? Il y a 2 solutions ici. Vrai ou faux? 2 options. Si c'est vrai, c'est la nouvelle la plus extraordinaire qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire du monde. Ça veut dire que la mort, la plus grande crainte de l'homme, n'est pas la fin. C'est que le début, qu'on peut vivre éternellement avec celui qui est ressuscité, si c'est vrai. Mais si c'est faux, c'est la plus grande supercherie et la plus extraordinaire supercherie de tous les temps. Parce que ce matin, on perd notre temps parce que ce serait un mensonge. Paul dit cela dans 1 Corinthiens 15, 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Mais attendez voir, si c'est faux, si Christ n'est pas ressuscité des morts, ben on va mourir dans nos péchés. Il n'y a pas du tout de vie éternelle avec Christ plus tard, puisque la résurrection est fausse. Donc je suis menteur, et vous aussi d'ailleurs, si vous le dites aux autres. On est plutôt mal barré. Alors je vais vous surprendre. Saviez-vous que le monde ne veut pas entendre parler de la résurrection corporelle de Jésus? Le monde déteste cette doctrine. Elle en a horreur. Pourquoi? Écoutez bien, si Jésus est vraiment ressuscité des morts, cela veut dire qu'il avait raison. Il est réellement le Fils de Dieu. Il a conquis la mort. Il peut donc réellement pardonner le péché. Et ça veut dire qu'il va aussi réellement juger le monde qui refuse de se repentir lorsqu'il reviendra. Cela veut dire que Jean 3, 36 est vrai. Jean 3, pas Jean 3, 16, Jean 3, 36 qui dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Mais oui, si la résurrection est vraie, ça veut dire que son jugement est vrai. Ça veut dire que les hommes pécheurs vont être jugés vraiment un jour. Et puisque les hommes aiment leur péché, ils ne veulent pas entendre parler de la résurrection parce que ça les trouble. De ce fait, écoutez bien ce que je vais dire, au fur et à mesure des années et des siècles, de nombreuses théories aussi absurdes les unes que les autres ont été émises pour tenter de réfuter la résurrection. Ce matin, maintenant je commence mon message, d'accord? Ça c'était l'introduction. Ce matin, nous voulons examiner quelques-unes de ces théories les plus répandues. Et je pense que ce qui va arriver dans votre cœur, c'est que ces théories farfelues, absurdes, vont vous convaincre que la résurrection a vraiment eu lieu. D'accord ? C'est parti ? C'est super intéressant. J'espère que vous allez aimer, vous allez beaucoup apprendre. Moi, ça m'a... Pas que je n'étais pas convaincu, mais là, je suis deux fois plus convaincu. D'accord ? Alors, c'est parti. Regardons les théories absurdes qui prouvent la résurrection. Numéro une, la théorie de l'évanouissement. La théorie de l'évanouissement. Alors, certains disent peut-être que Jésus n'était pas vraiment mort. C'est ce que les musulmans prétendent par rapport à Jésus, au fait. Mais uniquement évanoui, et qu'une fois enterré dans la tombe, à cause de la fraîcheur de cette tombe, qu'il s'est réveillé et qu'il s'est sorti lui-même du tombeau. Voilà ce qu'ils affirment. Alors, cette thèse, elle est pas mal, à moins que vous vouliez réfléchir. Cela veut dire que Jésus, après avoir été battu, torturé, lacéré au point où ses os et ses entrailles furent exposés à l'œil nu, avec les trous de clous dans ses mains et dans ses pieds, et un trou de lance dans son côté, s'est réveillé. Avec la force d'un homme épuisé, il s'est défait des bandes qui l'enveloppaient son corps avec ses aromates gommeuses, qu'il a ensuite roulé cette pierre de 2 tonnes, l'a poussée en haut d'une pente à quelques mètres du sépulcre, seul, et aussi de manière silencieuse pour ne pas réveiller les 16 gardes romains qui, bien sûr, avaient mis des cotons dans leurs oreilles pour ne rien entendre. Puis, Jésus est parti en douce, rayonnant de joie, se faisant passer pour le Fils ressuscité de Dieu pendant 40 jours. Si vous voulez croire cela, franchement, je suis impressionné par votre foi. Parce que ça, c'est même pas plausible. Cette théorie fut promulguée dans les années 1600 par un nommé Venturini. Cette thèse se heurte contre plusieurs choses, dont la garde romaine qui avait confirmé la mort de Jésus, à tel point que ses jambes ne furent pas brisées, mais qui, pour confirmer sa mort, lui percèrent le côté avec une lance. Il était confirmé mort. Les 16 soldats qui gardaient le sépulcre, ayant au préalable confirmé son contenu et une autre preuve de sa mort, eux, ils l'ont vu mort. Leur vie était en jeu, après tout. Et que dire de Joseph et Nicodème et les femmes qui aidaient dans la préparation du corps ? N'auraient-ils pas vu des signes de vie chez Jésus ? Écoutez, un mort ne respire plus. Un vivant respire. Est-ce qu'il n'aurait quand même pas vu Jésus respirer un peu s'il était évanoui? Et que dire? Un homme évanoui est sorti du tombeau tout seul en poussant cette pierre. Non, cette théorie n'est pas plausible. Deuxième théorie. La théorie de la résurrection spirituelle. La théorie de la résurrection spirituelle. Lorsque je suis arrivé à Genève il y a 20 ans en arrière en tant que pasteur, ma mère habitait à Genève, elle était journaliste, elle avait un programme radio sur Radio 74, elle était journaliste aux Nations Unies, elle connaissait tout le monde à Genève. Puis un jour elle m'a dit « John, est-ce que tu aimerais rencontrer des pasteurs de l'église réformée à Genève ?» Je lui dis « Ouais ». Donc elle m'a fait un rendez-vous avec un des pasteurs les plus connus à Genève à l'époque. J'ai eu un rendez-vous avec lui 30 minutes, j'étais tout content. Je me suis dit « Qu'est-ce que je lui posais comme question ?» Je lui ai posé une question. Juste une. Voici la question que je lui ai posée après notre entretien d'environ 20 minutes où il m'a parlé. Il m'a dit « Est-ce que vous avez une question ?» J'ai dit « Oui, la voici. » J'ai dit « Pasteur, croyez-vous que Jésus-Christ est ressuscité des morts ?» Vous savez ce qu'il m'a répondu ?« Oui, spirituellement, non physiquement. » Ça, c'est la théorie de la résurrection spirituelle. Il adoptait cette théorie. Cette théorie préconise que Jésus est ressuscité de manière spirituelle uniquement, mais pas corporellement. Il est devenu une sorte de fantôme, mais il n'est pas ressuscité corporellement. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il préconise. Alors, c'est intéressant que Jésus lui-même détruit cette théorie dans Luc 24, 36, où il est dit ceci. 24, 36, « Tandis qu'il parlait, donc, post-résurrection, il est ressuscité ici. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit, c'est les disciples, d'accord ? Les disciples croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-ils dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses pieds et ses mains. Ben oui, c'est concluant. Un fantôme ne montre pas ses pieds et ses mains pour qu'on puisse les toucher. C'est ce que Thomas a fait. Il a même mis son doigt dedans. Et l'autre problème avec cette théorie, c'est celui-ci. Pourquoi alors soudoyer la garde romaine pour leur dire de propager la théorie du vol du corps? Ça n'a aucun sens, s'il n'y a pas de corps. Non, j'ai bien peur que le pasteur à qui j'ai parlé à Genève il y a 20 ans en arrière se trompe dans ses conclusions à l'égard de la résurrection de Jésus. Troisième théorie absurde, la théorie de l'hallucination. La théorie de l'hallucination. Cette théorie bien répandue préconise que les gens qui ont affirmé avoir vu Jésus ressuscité, en fait, ne faisaient que d'halluciner. Ils s'imaginaient, par hallucination, avoir vu Jésus ressuscité. Ils pensaient voir Jésus, mais en fait, ils ne l'ont pas vraiment vu. Et ils ont pensé cela parce qu'ils s'attendaient à le voir ressuscité. C'était de l'autosuggestion. McDowell, dans son livre qu'on a vu la dernière fois, explique de manière détaillée ce qu'est une hallucination et démontre pourquoi il est impossible que ceci était le cas pour la résurrection de Jésus. Premièrement, il dit que tout le monde n'hallucine pas. Ou bien, dit autre manière, pas tout le monde hallucine. Ce sont d'habitude les paranoïaques et les schizophrènes qui hallucinent. Mais dans le Nouveau Testament, nous rencontrons toutes sortes de personnes qui ont eu des expériences avec la résurrection de Jésus-Christ. Deux, les hallucinations, nous disent les pros, sont liées au subconscient et à des expériences antérieures. Elles sont privées, subjectives, vides de toute référence externe et vides de tout objet. En plus, il est peu vraisemblable que deux personnes ou plus puissent avoir la même hallucination en même temps. C'est presque impossible. Pour que deux personnes hallucinent de la même manière, exactement en même temps. Or, Jésus a mangé avec ceux avec qui il a paru, il leur a montré ses blessures, qu'ils ont touché, une illusion ne s'assied pas pour partager votre repas avec vous. Et en plus, troisième point, il y a eu, relaté dans la parole de Dieu, 15 apparitions de Jésus, et plus de 500 personnes, en Corinthiens 15 nous dit, l'ont vu. 500, c'est pas rien. Et cela annule la possibilité que ceci ait été une hallucination. Ça va contraire à toutes les études médicales sur le sujet des hallucinations. Quatrième théorie absurde sur la résurrection de Jésus-Christ, qui prouve qu'il est ressuscité, la théorie de la fosse commune. La théorie de la fosse commune. Cette théorie suggère qu'il n'y avait en fait pas d'enterrement proprement dit, mais que le corps de Jésus mort fut descendu de la croix et jeté dans une fosse commune par les Romains, comme il se faisait souvent avec les criminels. Et ça, ça pose un autre problème. Pourquoi a-t-on mis une garde de 16 soldats pour protéger le sépulcre de Joseph d'Arimathée? Tout ce qu'ils avaient besoin de faire, c'est d'aller chercher le corps dans la fosse commune et de le montrer. Cela aurait tué le christianisme en 5 minutes. Ils l'ont pas fait. Théorie stupide. Cinquième théorie sur la résurrection. La théorie de la tombe erronée. Alors cette théorie suggère que les femmes, le matin de Pâques, sont allées au mauvais endroit. Elles se sont trompées de tombeau. Mince. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de corps. Et donc, elles ont conclu, alors Jésus est ressuscité. C'était une gaffe géographique. Voilà. Alors, si c'est le cas, il faut dire que, manque de peau, les hommes aussi se sont trompés de sépulcre, Pierre et Jean et les autres. Ah, et si les disciples se sont trompés de sépulcre, alors les juifs aussi se sont trompés de sépulcre. Ah oui, et si les juifs se sont trompés de sépulcre, les romains aussi se sont trompés de sépulcre. Ils ont mis la garde devant le mauvais sépulcre. Ah oui, et si les romains se sont trompés de sépulcre, les anges aussi se sont trompés de sépulcre. Ok, il y a vraiment beaucoup de gens qui se trompent, j'ai l'impression. Non, ça ne passe pas non plus. 6. Sixième théorie absurde sur la résurrection qui prouve qu'elle a vraiment eu lieu, c'est la théorie de la télépathie divine. La télépathie divine. Alors cette théorie suggère qu'il n'y avait pas de raison physique, pas de résurrection physique, mais plutôt que Dieu envoya des messages télépathiques aux chrétiens pour faire croire que Jésus était ressuscité, bien qu'en réalité il ne l'était pas. Donc tu étais là, tu es chrétien, tout de coup, l'esprit te parle pour te dire, écoute, il est dit qu'il y a eu une résurrection, d'accord, c'est un message télépathique. Il n'y en a pas eu, mais c'est Dieu qui te dit qu'il y en a une. Alors cette théorie pose un autre très 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 grand problème. C'est que la Bible nous dit que Dieu est un Dieu de vérité. Est un Dieu qui ne ment pas. Parce que cette théorie fait de Dieu un menteur qui envoie des messages de déception pour tromper les disciples, pour leur faire dire quelque chose de faux. Ça c'est quoi comme Dieu ? C'est ridicule. 7. Septième théorie. Vous savez qu'il y avait tant de théories, c'est incroyable. Hein? Septième théorie, ça montre que les gens n'aiment pas la résurrection. Septième théorie, c'est la théorie du sosie de Jésus. Un sosie, si je ne me trompe pas, un sosie, c'est quelqu'un qui ressemble identiquement à quelqu'un, d'accord? Alors, cette théorie est intéressante et préconise que quelqu'un, un de ses amis les plus proches, c'est en fait passer pour Jésus ressuscité. Alors, pour que ceci ait lieu, si l'impersonnisation a commencé avant même sa mort, il aurait alors fallu que cet ami se fasse lui-même fouetter, lacérer, crucifier, tout en impersonnant Jésus à la perfection. Mais même s'il a copié après sa mort, juste après sa mort, il a dû imiter la voix de Jésus parfaitement, ainsi que ses manières de faire de manière absolue, pour convaincre même les plus proches disciples de Jésus, qui ont tous affirmé que Jésus était ressuscité des morts, et qui ont souffert pour avoir tenu ses propos, en fait que c'était tout faux. Ils auraient en plus dû voler le corps de Jésus de la tombe et le cacher, impliquant se débarrasser de 16 soldats et déplacer une pierre de 2 tonnes à lui seul. Donc ça c'est le sosie. De plus, il devait avoir été proche des disciples pour pouvoir se faire passer pour Jésus, connaître ce que Jésus savait d'eux, identifier les gens que Jésus connaissait, les endroits, etc. En plus, il est ressuscité pendant 40 jours, n'oublions pas. Il devait alors duper tout le monde pendant 40 jours. Il devait aussi avoir le pouvoir d'un prestidigitateur, car il a dû pouvoir convaincre ses disciples qu'il pouvait passer au travers des murs et des portes et apparaître à volonté. Ça, on le verra dimanche prochain, lorsqu'on regarde l'histoire de Thomas. Il a dû aussi faire croire, dans Actes 1-9, qu'il fut élevé au ciel pendant que les disciples regardaient et qu'il fut enrobé d'une nuée, sans que cela se passe réellement. Parce que Acte 1-9 dit ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc ce gars, son sosie, a dû trouver un moyen pour faire ça. Peut-être qu'il a caché une immense grue pour le faire monter. Mais c'est ridicule. Huitième théorie. La théorie du corps volé par les autorités. La théorie du corps volé par les autorités. Alors vous dites, bon, ben c'est peut-être les Romains ou les Juifs qui ont volé le corps. Alors cette thèse est aussi pas mal, si vous voulez de nouveau réfléchir un peu. Bien-aimés. Cette théorie est non seulement absurde, elle est presque drôle. Pourquoi ? Pourquoi les autorités feraient-ils la chose qui leur crée encore plus de problèmes ? Réfléchissez un instant. Pourquoi ferait-il la chose qu'il voulait justement arrêter? Il ne voulait surtout pas que le tombeau soit vide. Il voulait que le tombeau soit encore habité par le corps de Jésus pour montrer qu'il n'est pas ressuscité. Alors pourquoi est-ce que c'est eux qui voleraient le corps? C'est même pas logique. C'est ridicule. Si les Romains ou les Juifs avaient volé le corps, alors pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas montré ou révélé? Vous savez, on regarde à la télé, quand il y a quelqu'un en Palestine qui est mort, ben il parade le corps, il y a toute une foule de gens, il parade le corps pour le montrer à tout le monde. Ben voilà ce qu'ils auraient dû faire. Ils auraient dû faire, ben il a prétendu ressusciter des morts, il n'est pas ressuscité, le voilà! Et en un instant, le christianisme aurait été détruit, mes amis. Oui, pourquoi? Parce que le christianisme est une foi sans corps. S'il y avait eu un corps dans le sépulcre, il n'y aurait jamais eu de christianisme. Car, nous a dit Paul, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Alors à la place, qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains et les Juifs? Ils ont arrêté les disciples, ils les ont battus, ils les ont fouettés, ils les ont menacés de mort en leur disant « Si vous n'arrêtez pas de dire cela, nous vous mettrons à mort !» Mais ceci n'a aucun sens. Ils avaient eu le corps. Tout donc qu'ils avaient besoin de faire, c'est de leur montrer le corps. Ils n'avaient pas besoin de menacer les disciples. Ils n'avaient pas besoin de les arrêter, ni de les battre, ni de les fouetter. Simplement, montrer le corps de Jésus. Ça aurait fait du christianisme une moquerie absolue. Vous savez pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils n'avaient pas le corps. Puisque Jésus ressuscitait des morts. Allez, la dernière. Vous êtes prêts? La dernière théorie, c'est la théorie du corps volé par les disciples. La théorie du corps volé par les disciples. Alors, cette théorie est importante parce que c'est celle qui a été préconisée à l'époque. Allez avec moi à Matthieu 28. Regardez, Matthieu 28. Et je vais lire à partir du verset 11. Matthieu 28, 11. « Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. » Donc il y a eu le tremblement de terre, la pierre roulée, Jésus ressuscité, les anges, ils étaient comme morts. Et ceux-ci, après s'être assemblés, verset 12, avec les anciens avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de la peine. Les soldats prirent l'argent, suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Le verset 11 indique que ces soldats se sont réveillés après que les femmes aient vu le tombeau vide, qu'elles soient reparties, et certains de ces soldats sont restés au sépulcre tandis que d'autres sont allés voir le haut sacrificateur. Ben, ils se sont tous réveillés. Ils ont dit, aïe, 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 le sceau est brisé, le corps n'est plus là, la pierre est partie, on est mort. C'était la peine de mort. Hein. Donc ils se disent, allez, 6 gars, ils étaient combien, 16, 8 soldats restent, 8 vont. Pourquoi sont-ils allés voir le haut sacrificateur? Eh bien parce qu'ils savaient que celui-ci avait une grande influence chez les Romains. Ils savaient aussi que c'était la seule manière possible de sauver leur propre peau. Ils savaient qu'ils avaient échoué à leur tâche de protéger le sépulcre et que seul le principal sacrificateur avait la chance ou le pouvoir d'intervenir auprès des Romains. Alors qu'est-ce qu'ils ont raconté les soldats au sacrificateur? Ben, le verset 11 nous le dit. Ce qui était arrivé. Donc ils vont au sacrificateur et leur racontent l'histoire. Alors vous êtes un des Juifs, membre du Sanhédrin. 8 soldats romains demandent de vous voir et ils vous disent ceci. Écoutez, nous étions en train de monter notre garde lorsqu'il y a eu un grand tremblement de terre. Un ange est apparu, brillant, blanc. Il a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Et nous, on s'est tous évanouis. Plus tard, on s'est réveillés et alors on a constaté que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. On est venu vous voir, s'il vous plaît, pourriez-vous faire quelque chose? Parce que alors là, on est des hommes morts. Alors, qu'est-ce qu'il a fait au sacrificateur ici, avec les soldats? Verset 12, ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de la nuit le dérober pendant que nous dormions. » Donc, le verset 12 nous dit qu'il tient conseil, et puis il soudoie les soldats avec une forte somme d'argent pour leur demander de dire un mensonge, comme quoi les disciples ont volé le corps. Alors, bien que le texte ne le dit pas explicitement, on peut supposer que quelque chose s'est passé entre le temps de l'arrivée des soldats et la remise du pot de vin, que le haut sacrificateur a envoyé un comité au sépulcre pour voir de leurs propres yeux ce qui s'était passé. Non mais attendez voir, il y a 8 soldats romains qui viennent et vous disent « Écoutez, on a vu un ange. » Vous allez vraiment les croire? Vraiment? Ouais, écoute, il y a un tremblement de terre, on a vu un ange blanc avec une robe là et tout, et il était assis sur la pierre et puis waouh, nous on s'est évanouis. Ah ouais, d'accord, ok. C'est peut-être pas vous qui hallucinez là un petit peu? Non mais franchement là. Non, je pense, c'est pas dans le texte, mais probablement ce qu'ils ont envoyé eux-mêmes un comité au tombeau pour aller voir. C'est pas loin, si vous connaissez Jérusalem, c'est pas loin. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la pierre rouler en haut d'une pente loin du sépulcre, étrange. Puis ils ont regardé dedans le tombeau, peut-être pour voir ces bandes qui enrobaient le corps de Jésus, durci par cette pâte aromatique, mais vide de son corps. Clairement, il était passé à travers. Puis ils sont revenus et ils ont raconté que quelque chose de très, très, très étrange était arrivé à ce sépulcre. Comment pouvait-il conclure que les soldats mentaient? Non, ces hommes juifs étaient convaincus que quelque chose de très étrange était bien arrivé. Ils savaient que ces soldats disaient la vérité, sinon ils ne les auraient pas soudoyés. Ils ne pouvaient pas en bonne conscience tenir cette unité romaine de 16 hommes pour responsable d'avoir failli leur tâche. S'ils avaient pu faire cela, alors il n'y aurait pas eu besoin de les soudoyer. S'ils n'avaient pas tout simplement pu trouver que la garde romaine était incompétente, ben leur cas aurait été gagné, mais ils ne pouvaient pas le prouver. Alors ils ont dû les soudoyer. Et alors au verset 13, les anciens dirent à la garde, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous tirons de la peine. » Les soldats prirent l'argent, suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. C'est intéressant, verset 14, « Si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, nous vitirons de la peine. » Les Juifs promettent de faire le nécessaire pour que ces soldats ne reçoivent pas la peine de mort. La corruption, c'est incroyable. Ils ont jugé Jésus faussement, ils l'ont condamné à mort, et s'y soudoyent ces hommes. Donc, les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu jusqu'à ce jour. Alors, quels sont les problèmes avec cette théorie? Si la garde était endormie, comment aurait-il pu savoir que les disciples avaient volé le corps? Ça ne tiendrait pas debout dans un tribunal. Difficile à croire que 16 hommes dont la vie était en jeu pour garder le sceau romain se seraient endormis en même temps, tous au même moment. Difficile à croire qu'ils n'auraient pas été au moins réveillés par le tremblement de terre. Ou bien qu'ils se seraient tous réendormis juste après le tremblement de terre. Difficile à croire que les 12 disciples connus pour leur lâcheté, qui ont tous abandonné Jésus dans le jardin de Gethsémané, Matthieu 26, 56, soit venu pour se battre avec la garde romaine et tenter de voler le corps. Écoutez, un de ces soldats tout seul aurait pu faire des 12 disciples un steak haché en quelques minutes. 5. Si la garde s'était endormie, difficile à croire que les disciples auraient pu déplacer la pierre de 2 tonnes en la roulant à une certaine distance du sépulcre sur les hauteurs sans réveiller cette garde romaine. Mais peut-être qu'ils sont venus sur la pointe des pieds, ils avaient beaucoup de coton dans les oreilles. 6. S'ils étaient venus voler le corps, pourquoi auraient-ils déplacé la pierre à une telle distance du sépulcre? C'est ridicule. Et un autre problème moral avec cette théorie est que ce vol supposé aurait été contraire à tout ce qui est écrit à leur sujet. C'étaient des hommes de grande moralité et d'honneur. Les premiers chrétiens étaient connus par tous pour leur pureté, pour leur austérité morale. Cela veut aussi dire que les disciples ont menti concernant la résurrection de Jésus, qu'ils ont enseigné ce mensonge et qu'ils ont maintenu ce mensonge pendant toute leur vie. qui était contraire à l'enseignement du maître pour lequel il est mort. Et si, et ils sont morts martyrisés, proclamant tous la résurrection de Jésus, moins Judas bien sûr, en sachant alors que ce qu'ils proclamaient était un mensonge. Vous êtes d'accord de mourir pour un mensonge que vous savez être un mensonge ? Non. Personne n'est d'accord de mourir pour un mensonge que vous savez être un mensonge. Et malgré leur persécution, emprisonnement et le fait d'avoir été battu, aucun d'eux n'a jamais renié le Seigneur ni rétracté sa foi en Jésus-Christ. Ils n'ont jamais même avoué avoir menti simplement pour soulager leur conscience. Non, la théorie du vol ne tient pas debout. Alors c'est quoi la juste explication? Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour? La voilà. Vous êtes prêts? Trois mots. Il est ressuscité. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ma foi n'est pas vaine. Parce que Christ est ressuscité des morts. Il est vivant. Il vit. Écoutez. Puisqu'il vit, il a le pouvoir de rentrer dans un homme ou dans une femme et de les transformer depuis l'intérieur. C'est vraiment possible. Voyez-vous, la raison pour laquelle les vies des chrétiens se voient être transformées, pourquoi elles deviennent complètement différentes de leur vie antérieure, c'est parce que Jésus est ressuscité et que Jésus peut venir habiter dans un chrétien par la puissance de son Saint-Esprit. Ça devient une vie surnaturelle. Surnaturelle. Moi, je me pince moi-même. Comment est-ce que ça fait que j'étais une fois hippie en Inde et aujourd'hui pasteur à Genève? Mes amis, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui a fait ce changement en moi et rien d'autre. Rien d'autre. Une épreuve les plus certaines que Christ est ressuscité, c'est la transformation foudroyante des premiers chrétiens. Si affirmer la résurrection de Jésus leur avait apporté des avantages tangibles comme du prestige ou de la richesse ou du pouvoir... Ah, peut-être on aurait pu expliquer ces actions farfelues qu'ils disent ici. Mais lorsqu'on considère quelles étaient leurs vraies récompenses pour avoir été fidèles à ce Christ ressuscité, on reste troublé. Mais allez voir, ces premiers chrétiens ont été flagellés, lapidés, jetés aux lions, torturés, crucifiés, soumis à toutes sortes de méthodes possibles pour les empêcher de parler. Et pourtant, ils étaient les plus pacifiques des hommes, n'imposant à personne leur croyance par force. Au contraire, ils ont sacrifié leur vie comme ultime témoignage de leur entière confiance en la vérité de leur message, comme quoi Jésus est ressuscité. Alors, comment conclure? Comment conclure? Aujourd'hui, un croyant en Jésus-Christ peut avoir, comme les premiers chrétiens, l'entière assurance que sa foi est basée non sur une théorie, non sur un mythe, non sur une légende, mais sur le fait historique de la tombe vide de Jésus-Christ parce qu'il est ressuscité. Et de ce fait, le croyant aujourd'hui doit savoir qu'il peut connaître la puissance de Jésus-Christ ressuscité dans sa propre vie. Il peut savoir que ses péchés sont vraiment pardonnés. Il peut avoir l'assurance de posséder vraiment la vie éternelle. Et il peut savoir, comme il l'a dit à Marie, que le jour où il mourra, il vivra vraiment. Amen. Amen. Enfin, il peut être délivré d'une vie dénuée de sens et vide et transformé. Pourquoi ? Eh bien parce que 2 Corinthiens 5, 17 dit ceci. C'est incroyable. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Galates 2, 20 qui dit ceci, mes amis, et ce verset n'est que possible chez Dieu, si Jésus est ressuscité. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mes amis, nous avons Jésus-Christ ressuscité qui vit en nous. Et ça change